Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Historien du livre, de l'édition et de la lecture, mais également de la notion d'auteur, de l'histoire de l'imprimerie et de celle de la traduction, donc de la circulation des textes, vous vous êtes interrogé sur les présupposés de l'histoire et vous vous intéressez aux fondements théoriques des pratiques des historiens. Vous êtes depuis 2007 titulaire au Collège de France de la chaire Écrit et Culture dans l'Europe moderne, mais vous enseignez également aux États-Unis. Vous êtes l'auteur de nombreux livres importants, dont le récent « La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur », 16e-18e siècle, que l'on trouve très facilement en folio. Vous avez dirigé un grand nombre d'ouvrages collectifs et vous avez publié un nombre très impressionnant d'articles de revues, parmi lesquels, bien entendu, dans les Annales, la fameuse revue fondée par Lucien Febvre et Marc Bloch en 1929. Vous avez aussi fait de la radio, alors bonjour Roger Chartier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Comment vous est venue cette passion pour cette forme d'histoire, l'histoire du livre ?
Oui, vous avez cité les Annales, et effectivement dans la série des transformations des intérêts des Annales, depuis ce moment fondateur de 1929, dans les années 60-70, il y avait eu l'idée, le rêve peut-être, d'une histoire culturelle qui pourrait employer les mêmes techniques, les mêmes outils que l'histoire sociale ou l'histoire économique ou la démographie historique. Et j'ai commencé avec cet intérêt pour une histoire quantitative et sociale des bibliothèques, de la production du livre, de la circulation du livre. Et progressivement, la conscience est venue, mais pas seulement à moi, que c'était très utile comme définition, qui possède des livres, qui n'en possédait pas, selon les milieux sociaux, quel type de livre était possédé, mais que nous n'entrions pas peut-être dans le plus important, qui était ce que les lecteurs font avec ce qu'ils lisent, c'est-à-dire l'histoire de la lecture. Oui. Et l'histoire de la lecture ne se soumet pas immédiatement à un traitement quantitatif, statistique. Il n'y a pas de source, même pas les sources sur l'alphabétisation. On a pendant longtemps compté des signatures, ça donne des pourcentages intéressants, mais il y a plus de gens qui savent lire que signer, et il y a moins de gens qui savent écrire que signer. Donc même dans ce cas-là, la donnée quantitative utile à collecter, à établir, ne donne pas la clé des comportements. Et donc l'histoire de la lecture a suscité intérêt et a conduit à essayer de trouver des sources pour cette histoire de la lecture, ce que des lecteurs ont dit ou écrit de leur lecture, les normes imposées à la lecture, de plus en plus la collecte dans les livres eux-mêmes des traces de lecture par les annotations manuscrites.
Ou les citations peut-être, sans doute. Les citations, de lecture.
Alors donc ce projet-là d'histoire de la lecture conduisait à déplacer les intérêts classiques de l'histoire du livre et pouvait s'ajouter à cela l'idée que quand on travaillait d'une manière plus sérielle, plus statistique, plus quantitative, un livre est un livre, qu'il soit de Cervantes ou d'un inconnu de la littérature, c'est toujours une unité qui fait partie de la statistique. Et donc l'idée a été aussi de focaliser, de porter l'attention sur des livres qui, peut-être plus que d'autres, pour différentes raisons qu'on va peut-être rencontrer au cours de cet entretien, ont eu un impact, une influence, une importance. Et donc, du coup, je me suis hasardé à faire ce qui, en France, n'était pas toujours très bien admis, en particulier par les historiens de la littérature, que des historiens qui n'étaient pas d'historiens de la littérature s'emparent de Molière ou de Shakespeare ou de Cervantes. Et donc ça a été ce double mouvement de porter l'attention sur le lecteur et de porter l'attention sur des textes canoniques, les plus canoniques parmi les canoniques, qui a pu conduire à des cours ou à des essais ou à des livres que vous avez eu la gentillesse de rappeler. Alors, quand nous avons commencé ce dialogue.
Ce qui est très intéressant, Roger Chartier, dans votre travail, et notamment dans le dernier cours que vous avez donné, c'est que vous ne faites pas une histoire du livre, mais une histoire d'un non-livre, d'un livre absent, qui est évidemment Cardenio. Vous aviez consacré votre tout premier cours au Collège de France à Cardenio, et au fond, d'une certaine manière, vous revenez sans cesse sur ce livre, parce que c'est évidemment, je pense, un rêve d'historien de faire se croiser Cervantes et Shakespeare, et que, bien entendu, ils se rencontrent dans vos cours, ce qui est quand même une très belle manière de les faire se croiser. Vous avez écrit un très beau Cardenio entre Cervantes et Shakespeare, histoire d'une pièce perdue chez Gallimard. Alors, en quoi est-ce que cette pièce est un fondement pour la lecture, pour l'histoire de la publication, pour l'histoire du livre, et aussi pour, au fond, l'histoire de la circulation culturelle en Europe?
Oui, alors si j'y suis revenu, c'était à la fois, comme vous l'avez implicitement indiqué, par une sorte d'idée de faire que le dernier cours soit un écho des premiers, et profitant évidemment d'une actualité qui va être très, très omniprésente à partir de maintenant, c'est-à-dire 1616, la mort la même année, sinon le même jour, de Cervantes et de Shakespeare, qui faisait donc là une rencontre objective en quelque sorte. Et du coup, vous avez dit le rêve, effectivement, de cette rencontre. Alors, elle a pu être mis en littérature. J'avais commencé les cours de cette année avec la référence à un très beau essai, ou un très beau conte, on pourrait dire, de Anthony Burgess.
Est-ce qu'il y en a d'autres?
Il y en a d'autres, mais moins brillants que celui de Burgess. Il y a un film espagnol qui fait que Cervantes et Shakespeare tombent amoureux de la même femme, et toute l'intrigue tourne autour de cela. Il y a un Anglais, Robin Chapman, qui a écrit, ils se rencontrent, ils assistent à une représentation de Cardenio. Donc c'est une obsession, cette idée qu'ils sont si importants. Pourquoi, comment n'auraient-ils pas pu se rencontrer? Alors c'est un rêve qui peut être mis en littérature, et le texte de Burke, c'est le plus intéressant.
Rencontre à
Valladolid. Parce que l'idée, c'est qu'il y a eu une ambassade anglaise en 1605 pour un traité de paix signé entre l'Angleterre et l'Espagne, qui avait été signé à Londres en 1604, mais il fallait l'accord du roi d'Espagne, la signature du roi d'Espagne, donc une ambassade anglaise va chercher ce serment même du roi d'Espagne. Mais évidemment, dans les sources historiques, il n'est pas question de Shakespeare dans cette ambassade. Anthony Burgess, l'auteur de Orange Mécanique, invente que l'ambassade avait aussi les comédiens du roi, et donc Shakespeare, et donc il arrive à Valladolid, et qui peut-il rencontrer à Valladolid, qui effectivement
vivait
à Valladolid, un dialogue. Et c'est justement après cette ambassade de 1605 que l'on voit les premiers exemplaires de l'édition de Don Quichotte arriver en Angleterre. Et d'autre part, il a été traduit assez rapidement. Le livre est traduit en 1612 en anglais, en 1614 en français. Donc il y a une immédiate présence de Cervantes dans l'horizon des lectures des lecteurs d'Angleterre et de France, et presque en même temps d'Italie ou des Provinces Unies. Et ça entraîne ce que vous disiez, c'est-à-dire ça permet d'entrer dans un déséquilibre. Parce que évidemment, et c'est un trait amusant dans la nouvelle de Burgess, Shakespeare dit à Cervantes, mais vous traduisez même pas nos livres. C'est-à-dire, parce que Cervantes est de très mauvaise humeur, il n'aime pas ces hérétiques que sont les Anglais, il leur dit, vous aurez
et
jamais...
Puis, il est un peu plus âgé que Shakespeare.
Il a souffert, il a été prisonnier des barbaresques à Alger, et alors il dit à Shakespeare, il dit à Shakespeare, vous ne pourrez jamais avoir une grande littérature parce que vous n'avez pas souffert. Alors il y a tout un thème d'ailleurs de la rapport entre la souffrance et la littérature dans cette imagination d'Anthony Burgess. Mais ce qui reste historiquement vrai, c'est le déséquilibre. C'est-à-dire qu'il est bien plus que probable que Cervantes n'ait pas la moindre idée qu'un auteur s'appelant Shakespeare écrivait des pièces en Angleterre. Il n'avait peut-être même pas la moindre idée de ces pièces anglaises, puisque les pièces anglaises, et en particulier celles de Shakespeare, n'ont été traduites qu'à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. En France, Voltaire, Ducis, et les traductions espagnoles, traduction de la traduction française. Et donc il y a un déséquilibre que l'histoire de la littérature classique oublie. On peut faire des parallèles entre Shakespeare et Cervantes, mais il faut savoir qu'historiquement, autant Shakespeare et les Anglais et les autres dramaturges avaient lu en anglais ou en espagnol les textes de, par exemple, Quichotte, et ça se maintiendra avec les autres textes de Cervantes, comme les Nouvelles Exemplaires ou le très grand, très beau roman de la fin de sa vie, qui sont les travaux de Persilès et Sigismunda. traduit une année immédiatement après la publication en espagnol en France, avec deux traductions concurrentes.
Oui, donc c'est une œuvre posthume, hein, c'est ça?
Oui, puisqu'il meurt en 1616, et les derniers textes qu'il écrit sont la dédicace et l'avis au lecteur pour ce texte des travaux de Persiles et Sigismunda. Et donc il y a un déséquilibre total dans la présence, et ça donne une géographie littéraire peut-être plus intéressante ou différente d'une géographie littéraire reconstruite a posteriori, où on peut comparer des auteurs, évidemment. On peut comparer Dante et Shakespeare, Cervantes et Shakespeare, ce qui est tout à fait légitime esthétiquement, intellectuellement, mais qui ne doit pas masquer ce très grand déséquilibre. Alors, dans ces rencontres, le point d'intersection le plus évident, c'est Shakespeare et son collaborateur, ou peut-être l'inverse d'ailleurs, oui. Fletcher, qui lui connaissait très bien l'espagnol, lisent le Quichotte et pensent qu'on peut faire une pièce de théâtre avec, non pas tellement les aventures de Don Quichotte, c'est compliqué de faire du théâtre avec les aventures de Don Quichotte, il y en a beaucoup, mais avec une des histoires d'amour et de désamour du livre, qui est l'histoire de Cardenio et de Lucinda.
Alors, je vais vous poser une question de Midinette. Roger Chartier, est-ce qu'on est vraiment sûr que ce texte a disparu? Est-ce qu'il n'est pas question de le retrouver un jour dans une bibliothèque au fin fond du Texas, chez un milliardaire américain ou quelque chose de ce genre? Bon, est-ce que c'est possible?
Si ce n'avait déjà été fait, je vous conseillerais d'écrire un roman policier sur cette hypothèse.
Mais vous menez l'enquête.
Oui, mais parce qu'il y a plusieurs romanciers qui ont, comme vous le faites,
vous avez un côté Sherlock Holmes dans cette
affaire. Ils ont transformé en une detective novel, puisque un roman policier, cette histoire, le plus brillant étant Jasper Ford, cet auteur anglais qui écrit... il faut que je retrouve le titre du livre, mais l'intrigue, c'est justement le Cardenio perdu qu'on a retrouvé.
Est-ce que c'est traduit en français?
Oui, je vais le retrouver. C'est Ford avec deux F, c'est très curieux, je crois que il est gallois, F-F-O-R-D-E.
Alors on va aller voir ça.
On va retrouver, bon, alors et puis il y a un autre roman, où c'est presque au Texas, que justement on trouve dans une caverne le manuscrit. Rien n'est impossible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à l'époque du XVIe, début XVIIe siècle anglais, la plupart des pièces n'étaient jamais publiées. Et donc, c'est pas parce que le manuscrit aurait disparu. Oui, la plupart des manuscrits d'auteurs n'existent pas. Et on aura très peu de chances de retrouver une édition imprimée, puisque la plupart des pièces, peut-être deux tiers, n'ont jamais été imprimées. Et pas seulement pour des auteurs que nous avons ignorés maintenant, mais lorsque les deux compagnons de Shakespeare dans la troupe du roi, Hemings et Candle, décident un peu après sa mort, en 1623, de réunir ces pièces dans un premier grand livre, le premier folio, 36 pièces sont réunies, 18 n'avaient jamais été imprimées. Ce qui fait que s'il n'y avait pas eu cette décision de Hemings et Candle, il y a toute une partie, et parmi les plus belles des pièces de Shakespeare, qui ne seraient jamais arrivées jusqu'à nous. Alors, je ne suis pas complètement optimiste sur le fait qu'on va trouver le texte de Cardenio, qui a ensuite suscité beaucoup de discussions, puisque on a une attestation que la pièce a été représentée à la cour deux fois en 1613. 40 ans plus tard, un libraire-imprimeur, Mosley, fait enregistrer cette pièce au milieu de 40 autres pièces, comme avoir un droit de la publier, mais il ne la publiera jamais. Et le seul chaînon, autre que un titre, puisque dans les contes qui rendent compte des représentations, on dit une pièce appelée Cardenio ou Cardena. Dans le registre des libraires-imprimeurs, on a The History of Cardenio, mais ce serait seulement un titre. Ce qui donne plus d'intérêt à la chose, c'est qu'en 1727, un éditeur de Shakespeare, Lewis Theobald, qui était en même temps un dramaturge, fait représenter à Londres une pièce qu'il publie l'année suivante et qui a pour titre Double Falsehood, la double imposture, si on veut traduire comme à la Marivaux, mais qu'il dit fondée sur des manuscrits anciens d'une pièce qui ne peut être que le Cardenio de Shakespeare, puisque l'histoire qui est racontée dans Double Falsehood est l'histoire des amours de Cardenio et Lucinda. Et alors toute la discussion s'est engagée autour de est-ce que Théobald a tout inventé, ou est-ce qu'il avait réellement ses manuscrits? S'il avait ses manuscrits, qu'est-ce qu'il a transformé? Qu'est-ce qu'il a apporté qui est de sa propre invention et de sa propre écriture du XVIIIe siècle sur un texte qui datait de 1613?
Il l'a certainement modernisé, en tout cas.
Ah oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que j'ai repris cette année cet argument, pas dans un autre contexte, qui était les contextes qu'on discute maintenant, des rencontres entre Shakespeare et Cervantes, ou de l'Angleterre et de l'Espagne. Mais parce que, évidemment, depuis le moment où j'avais publié ce livre chez Gallimard, il y a eu des colloques, des essais, des livres collectifs qui ont travaillé sur ce rapport entre la pièce de Théobald et la pièce supposément de Fletcher et Shakespeare.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Los ratos que estaba ocioso, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido. Se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio.
Roger Chartier, je voulais vous demander le rôle que joue effectivement le Quichotte de Cervantes dans l'histoire du livre en Europe.
Bien sûr, il est porté par le fait que toute l'Europe aime à lire la littérature espagnole du temps. On a traduit tous les romans de chevalerie, les romans picaresques sont aussi très rapidement traduits.
Oui, on peut dire qu'au fond, l'espagnol était l'anglais de l'époque.
Oui, avec l'italien.
Avec l'italien.
Mais le cas de Cervantes est différent, le cas du Don Quichotte, puisque c'est un texte qui est écrit dans aucun des genres déjà présents. Que ce soit un roman de chevalerie qui devient l'objet de l'ironie principale du livre.
Un anti-roman de chevalerie.
Oui, c'est pas du tout non plus un roman picaresque où il y a une sorte de fabrication du populaire. Ce n'est pas un roman pastoral, à la différence du premier livre qu'avait publié Cervantes bien avant, le seul, la Galatea. Et donc, Francisco Rico, le grand critique espagnol, éditeur de Don Quichotte, dit que ce texte est écrit dans la prose domestique de la vie. C'est aussi vrai, c'est-à-dire l'écriture en est une écriture, certes extrêmement travaillée, mais qui donne l'impression d'être une conversation. C'est une série de conversations. C'est un livre, comme dit aussi Rico, parler plus qu'écrire. Enfin, bien sûr, il est écrit, mais il donne l'impression. Et donc, c'était quelque chose qui était absolument inouï. Personne n'avait jamais lu un livre comme cela. Et peut-être parce que Cervantes n'appartenait pas au monde lettré. Les mondes lettrés ou les mondes académiques ont l'habitude aussi de s'inscrire dans des formes déjà disponibles. Lui, il avait écrit ce texte, la Galatea, au retour de la captivité à Alger, mais c'était un soldat auparavant. Et après ce livre-là, il devient un commissaire de l'administration royale pour la levée des impôts en Andalousie. Et donc, comment il peut penser, comment il écrit, c'est là, il y a un aspect qui peut résister à l'analyse historique. Il invente cette forme, enfin, cet objet plus qu'une forme, cet objet. Ça deviendra une forme, comme vous l'avez dit, puisqu'ensuite, il n'y a pas un seul romancier qui suivra au XVIIIe ou au XXe siècle qui ne se réfère pas d'une certaine manière à Don Quichotte.
Mais en même temps, d'ailleurs, Roger Chartier, on peut dire que c'est une forme justement très commode, puisqu'on rentre dans une question ou dans une rencontre, et puis on la déploie, et puis finalement, on passe ensuite à autre chose. Et au fond, comme manière de traiter le roman, c'est quand même ce qu'on fait de plus intéressant, d'une certaine
façon. Oui, je pense qu'il invente.
D'ailleurs, Boussole, le dernier Mathias Sénard, est construit très exactement de la même manière, hein.
Jamais le Cervantes. D'ailleurs, le mot n'existait pas, parce que novella, qui est le roman en espagnol, désignait les nouvelles brèves. Et donc, il n'y avait pas de désignation pour ce type-là de livre. Et lui, il l'appelle toujours, pour jouer sur l'idée de l'effet de vérité, une histoire, una historia, qui permet de faire croire au lecteur, s'il veut bien y croire, que Don Quichotte a vraiment existé. Il s'appelait Alonso Quijano el Bueno, qu'il y a des archives sur lui, qu'il y a un historien arabe qui en a raconté.
Il construit sa bibliothèque.
Voilà, oui. Et dans la bibliothèque de Don Quichotte, on trouve la Galatea de Cervantes. Donc, il y a un jeu de
mise en abîme.
Et donc, du coup, il n'y a même pas de catégorie de genre. C'est une histoire dans le texte qui s'oppose à la poésie, puisque l'histoire doit respecter les faits, alors que le poète peut inventer ce qu'il entend. Et alors, l'effet est puissant, et du coup, les traductions sont assez rapides pour le temps. Comme je disais, 1612 en anglais, 1614 en français, un peu après en italien, en allemand. Et surtout, ça devient un livre européen. Vous avez parlé de cela, l'idée d'européen. Ça devient un livre européen. Par exemple, la première édition du Quichotte dans laquelle il y a des illustrations continues. et une traduction hollandaise de 1657. La première fois où le livre est publié en un in-folio, c'est la seconde édition de la traduction anglaise en 1653. Donc c'est un livre qui, dans un sens, est, parce qu'il est le plus espagnol, échappe à cette hispanité et devient un livre européen. C'est le plus grand roman anglais du XVIIIe siècle. Il a été traduit 5 ou 6 fois en Angleterre, et par des auteurs comme Smollett. Et il est très omniprésent dans ce livre de Stern, le Tristram Shandy.
Ah oui, donc, c'est d'ailleurs la même forme, enfin,
donc,
c'est le même système.
Et donc, à partir de 1700, il y a 5 traductions successives.
Et Potocki aussi, le manuscrit, trouvé à Saragosse. C'est exactement.
Oui, il y a aussi ça, le thème que le roman s'interrompt, puisque vous vous souvenez peut-être, jusqu'au chapitre 8, il y a un lecteur qui lit une histoire dont l'auteur est celui qui dit dans la première phrase qu'il ne veut pas se souvenir du lugar de la Mancha, du lieu de la Manche où se passe cette histoire. D'ailleurs, on n'a jamais su pourquoi il y avait cette idée qu'il ne fallait pas, qu'il avait voulu no quiero recordar, je ne veux pas me souvenir de ce lieu. Borges disait, ouh, ça c'est de l'indication d'un roman policier, pourquoi il y a quelque chose de louche là. Donc, ce texte s'interrompt brutalement au chapitre 8, il n'y a plus, le manuscrit n'existe plus, et donc ce lecteur qui était celui qui lit comme nous cette première histoire, il va chercher la suite. Et il la trouve dans chapitre 9 à Tolède, dans un manuscrit qu'il a du mal à pénétrer puisqu'il était écrit en arabe, et il trouve un traducteur, mais c'est là l'histoire parallèle était effectivement ce manuscrit enfoui dans les papiers, comme il dit, papeles rotos de la calle, et tous les papiers qui n'ont pas d'importance qu'on pouvait trouver chez des revendeurs, des bouquinistes de Tolède en 1604.
Votre leçon inaugurale, Roger Chartier, qui s'intitule « Écouter les morts avec les yeux » et qui a été prononcée donc le jeudi 11 octobre 2007, vous dites page 60. Alors on la trouve chez Fayard, elle est très très facile à trouver, elle est très très passionnante, et vous écrivez ceci. Le crédit accordé à l'écrit pour le meilleur ou le pire, comme ses conquêtes dans tous les domaines de l'expérience sociale, ne peuvent être séparés de leur envers, à savoir une durable nostalgie pour une oralité perdue. C'est exactement ce que vous êtes en train de nous dire en parlant du roman de Cervantes. C'est un roman de l'oralité. Enfin, c'est la mise par écrit de plusieurs conversations, de croisements, de rencontres. Oui.
C'est peut-être aussi une des raisons qu'on n'a pas encore évoquées de l'effet qu'a produit ce texte. Non seulement la prose domestique de la vie, les lecteurs parlent la langue du roman, et non pas des langues artificielles comme la langue des romans de chevalerie, voire même la langue du picaresque, oui, qui veut faire un effet de populaire, mais qui ne l'est pas, ou la langue encore moins immédiate des bergers d'Arcadie dans tous les romans pastoraux. Et donc il y a cela, et du coup, c'est effectivement une manière de récupérer dans l'écriture quelque chose de cette oralité perdue. Alors, pour un historien, c'est très difficile de travailler avec l'oralité perdue, puisque, par définition, elle ne peut être qu'écrite. Et de là, je me rends compte maintenant que vous citez cette phrase, qu'il y a un certain nombre de recherches que j'ai faites, peut-être moins plaisantes que celles sur Cardenio et Cervantes, mais par exemple sur la ponctuation des textes, qui a un rapport à cela. Parce que quelles sont les traces de l'oralité dans l'écrit? Ça peut être l'utilisation de formes rhétoriques, parce que le texte est destiné à un discours. Ça peut être des indications du fait que le texte, sans être un texte rhétorique, est destiné à une lecture à haute voix, parce qu'on a beaucoup oublié ça, le fait qu'une des formes normales de publication, c'est de lire à haute voix. Pas forcément par ceux qui savent lire, pour ceux qui ne savent pas, ça peut être une situation, mais aussi entre des gens qui sont parfaitement alphabétisés, mais qui prennent un plaisir dans ce partage de l'écoute. au XVIe siècle, XVIIe siècle, on voit que c'est une situation de tous les instants. On peut lire à haute voix avec les gens qui voyagent avec vous dans un coche, on peut lire à haute voix sur la place publique, et d'ailleurs des titres de chapitres de Cervantes dans la deuxième partie de Quichotte de 1615, où il est dit « Où lira celui qui verra et où entendra celui qui écoutera lire ?» Il prend ça comme titre de chapitre, c'est une autre modernité, c'est-à-dire il n'y a plus le contenu du chapitre, il y a simplement cette indication, mais qui est très précieuse, parce que ça veut dire, un, que le Don Quichotte pouvait être lu à haute voix, et ce qui veut dire aussi, deux, qu'il faut penser à une structure du livre qui permet ces lectures à haute voix. Donc il faut que les chapitres aient quand même une certaine unité, et qu'ils ne soient pas compréhensibles seulement si on a lu ou on se souvient de tout ce qu'il y a auparavant.
Donc qu'ils forment des récits complets.
Exactement, qu'ils forment une certaine unité de lecture. Oui. Et donc c'est, et d'ailleurs dans le roman lui-même, enfin, vous voyez, j'ai pris l'attitude moderne, c'est un roman, c'est le premier de tous les romans, qui ne s'est jamais désigné comme tel, mais c'est le premier de tous les romans, eh bien il y a un moment où les personnages sont réunis dans une auberge, et ils ne savent pas bien trop quoi faire, et dans cette auberge il y avait deux romans de chevalerie, un livre d'histoire et un manuscrit. Et ce manuscrit est une nouvelle, c'est la nouvelle du curieux impertinent, et le curé qui est là se met à lire pour les personnages, et donc du coup on est, le lecteur est comme un de ses auditeurs du curé lisant à haute voix cette histoire qui est déployée sur trois chapitres, qui n'a rien à voir avec, dans son contenu, avec l'histoire des personnages, puisqu'il s'agit quelque chose qui, une histoire qui se passe en Italie, où un mari est tellement sûr de la vertu de sa femme qu'il défie son meilleur ami de la séduire, et c'est ce qui advient, et ça se termine très mal dans la nouvelle pour les trois. Et c'est une des nouvelles qui a été aussi utilisée pour faire du théâtre avec le Don Quichotte. Mais quand on travaille sur La Bruyère, on se rend compte qu'il y a un usage extrêmement subtil de la ponctuation, et que c'est une ponctuation musicale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point dans tout un caractère, sauf à la fin, comme un aria. Et il joue avec des contrastes entre des parties où il y a de très nombreux petits segments entre des virgules, comme si c'était staccato, et des parties au milieu où il y a comme plus de ponctuation comme un argot. Et il n'y a jamais une ponctuation lourde, comme on voit dans certaines éditions modernes. Il n'y a pas de guillemets, il n'y a pas de points qui viennent faire des phrases à l'intérieur d'une des, on appelait ça, remarques ou portraits. Et donc, on voit clairement qu'il y avait une référence musicale pour la construction du texte, mais aussi pour la destination du texte. Et certains metteurs en scène, comme Villégier, l'ont compris. Et ils ont donné, en des formes de transmission orale, les textes des caractères.
Oui.
Et qui avaient été trahis par ceux qui, normalement, étaient de plus grands spécialistes que les metteurs en scène de la littérature, lorsqu'ils ont fait des éditions modernes, et où ils ont introduit des phrases là où il n'y en avait pas, où ils ont mis une ponctuation très lourde. C'est l'édition, par exemple, de M. Doloff, conservateur s'il en était, mais qui ne l'était pas pour l'édition des textes, et trahissant, du coup, l'intention de La Bruyère.
Roger Chartier, une partie de vos cours, une grande partie de vos cours était consacrée à un certain nombre de livres et d'auteurs qui circulaient dans l'Europe. Sur le mode de circulation, effectivement, la lecture, la manière dont la réception a été plus ou moins bonne et comment, toutes sortes de cours extrêmement passionnants. Mais vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'imprimerie et la matérialité du texte. Par exemple, la plume, l'atelier typographique et la scène dans l'Europe de la première modernité. Roger Chartier, cette histoire de la traduction, elle est passionnante, surtout quand il s'agit d'une notion comme Sprezzatura, justement.
Oui, ça fait partie de ce que j'ai pu faire, et que je continuerai à faire d'ailleurs, c'est-à-dire un intérêt pour les migrations des textes, on en a déjà parlé, mais avec un cas plus précis, la traduction. C'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose qui se passe avec la traduction et qui fait qu'un texte peut acquérir un sens très différent. Alors, je l'ai fait sur plusieurs échelles. Alors, je suis pas un spécialiste du livre de Castiglione, Il Cortegiano, mais c'est un livre qui a été sans doute, avec un autre texte que j'ai étudié, Las Casas, un des plus traduits entre le XVIe et le XVIIIe siècle, puisqu'il donnait les modèles d'un comportement.
On a une belle traduction de Alain Ponce.
Hein. Absolument. Qui reprenait une des traductions françaises. Alors, dans ce cas-là, ce qui m'avait intéressé, c'était non seulement le thème du courtisan, de la cour, de la civilité de cour, parce que ça rejoignait mon intérêt pour des travaux de Norbert Elias. Mais c'était le fait qu'on pouvait travailler, ce que fait pas toujours l'histoire des traductions, avec l'échelle la plus petite. Dans ce livre, il y a un mot, sprezzatura. Et sprezzatura était quasiment un néologisme en italien. Et ça voulait désigner la manière aisée, immédiate, longue, pesante, à travers lesquelles les courtisans parlaient ou agissaient, et ce qui leur attribuait, ce qui était le but de ces comportements ou de ces discours, c'est-à-dire la grâce. Et alors, sprezzatura, en italien, c'est le S privatif. Sprezzare, c'est ce qui n'a pas de prix. Ce à quoi, là où on ne porte pas d'attention, où on ne donne pas de valeur. C'était déjà paradoxal. C'est-à-dire que la qualité suprême du courtisan, c'était une forme, on pourrait dire, de désinvolture, de négligence. Mais c'était un mot très difficile à traduire. Sauf en espagnol, parce qu'en espagnol, le traducteur Boscan, 1534, le texte est de 1528 de Castiglione, a l'équivalent d'esprecio, ce qui n'a pas de prix, ce à quoi on ne porte pas attention. Mais par les autres langues, ça devenait beaucoup plus compliqué. Et vous évoquez la traduction française. La première traduction avait choisi nonchalance, qui était un mot un peu ambigu des intérêts. Et en même temps, chez Montaigne, ça peut signifier une manière libre de se conduire. Mais la deuxième, celle qu'a repris Alain Ponce, en transformant sur ce point-là la traduction, avait choisi mépris. C'était la même idée, c'est-à-dire que ce qui n'a pas de prix, donc ce qui est méprisé. Et on voit tout la mécanique était de donner une valeur suprêmement positive à un mot qui pouvait avoir une valeur tout à fait négative. Et c'était peut-être la première distinction du courtisan, c'est-à-dire de donner des sens inverses au mot. Et alors c'est là où la traduction devient très délicate. Le point extrême étant que dans la réédition de la traduction anglaise de Hobby, qui avait été publiée en 1561, la première édition, la seconde, utilise le mot « disgracing ». C'est-à-dire que la disgrâce devient la condition de production de la grâce. Donc on pousse le paradoxe jusqu'à l'extrême dans ce cas-là. Et on veut invertir le sens des mots, et ce serait peut-être la première des distinctions curiales, ou de la première des distinctions des courtisans. C'est d'être maître de sens de mots qui ne sont pas les sens ordinaires que l'on trouverait.
Alors ça m'avait intéressé, ça. Quelle belle idée.
Ouais, ça m'avait intéressé de travailler sur cette échelle-là. L'autre chose que vous venez de dire, qui est aussi un fait passionnant, c'est l'intraduisible. Parce qu'on dit que c'est intraduisible, mais c'est toujours traduit. Et donc, il y a une tension. Et ça, c'était plutôt sur un autre texte que j'ai étudié, qui était l'Oraculo Manuali Arte de Prudencia de Baltasar Gracian, le jésuite, en 1647, oui. Huesca, et traduit par Amelot de Lahousset en France en 1684, comme l'homme de cour. Et là, on a affaire à une, dans la traduction, à une transmutation totale du sens. Le mot cour n'apparaît pas dans l'œuvre de Baltasar Gracian. C'est une morale par provision, dans une vision d'un monde qui est un monde de la chute. Oui, mais un monde de la chute, oui, tout à fait chrétien. Un monde de la chute, du péché, du mal. Et dans ce monde-là, il faut pouvoir se défendre contre les méchants. Et donc de là, toute la construction de Baltasar Gracian sur la justification de la dissimulation, cacher ses intentions, déchiffrer dans l'autre ce qu'il veut faire. Et c'est pour ça, sans doute, que pour Amelot de Lahousset, ça fonctionnait parfaitement dans l'atmosphère de la cour. Mais ce n'était pas du tout l'intention de Gracian. Il s'adressait à la fois à un destinataire universel, mais particulier parce que c'était celui capable de comprendre le texte. Et donc, mais il ne le qualifiait pas comme le courtisan ou comme le militaire ou comme l'aristocrate. C'était une universalité limitée, on va dire, parce que de là l'écriture. C'est-à-dire que Gracian écrit dans un style extrêmement dense, serré et qui résiste à la compréhension. Et même pour un Espagnol du XVIIe siècle, Amelot de Lahousset disait « Oui, on dit en France que Gracian est absolument intraduisible et même que les Espagnols ne le comprennent pas. » Donc il y avait une sorte de protection de ce code qui était donnée par l'écriture. Alors Amelot de La Houssaye, bon, il a beaucoup de difficultés à traduire certains des aphorismes, mais en tous les cas fait une transformation fondamentale qui est de décider que ce texte est l'éthique nécessaire pour la cour. Et donc il situe le texte dans un univers social particulier qui est celui de la cour. Et alors pour terminer, ce qui m'avait intéressé, c'est que Norbert Elias, dans son livre sur la société de cour, a lu, lui il croyait lire Gracian, mais en fait il a lu la traduction de Amelot de La Houssaye et il dit Gracian est le premier traité de la civilité de cour, comme Machiavel est le premier traité de la politique de cour. Mais il ne savait pas, puisqu'il n'avait pas lu l'original espagnol, que le mot cour n'apparaissait jamais chez Gracian. Mais ceci s'est perpétué, je ne voudrais attaquer personne, mais il y a une édition folio récente, où il y a une très longue préface, plus longue que le texte, de Marc Fumaroli. Et le titre que vous avez, c'est Gracian, l'homme de cour.
Oui.
Mais Gracian n'a jamais écrit aucun livre qui s'appelle l'homme de cour. Mm-hmm. Et donc on voit que là, à tout jamais, le sort, au moins dans les traductions en français de Gracian, a été scellé par Amelot de La Houssaye, qui a décidé que ce livre était sur la cour, ce qui n'est pas le cas.
C'est sans doute le cas de beaucoup de traductions.
Qui donnent une vie, un texte séparé. Oui, c'est tout à fait le cas. Et là, alors ça m'avait beaucoup fasciné, parce que en plus, toutes les traductions après, sauf une italienne qui avait préexisté à la traduction de Amelot, toutes les autres traduisent Amelot. Donc ils traduisent en anglais, en allemand, l'homme de cour. Parfois en français dans le titre, parfois dans la langue de la traduction, et même en italien où il y avait effectivement deux éditions préalables qui respectaient le texte de Gracian, eh bien, on leur a substitué, au XVIIe siècle, une traduction de L'Uomo di Corte, c'est-à-dire une traduction de Amelot de La Houssaye. Alors on voit que là, on est dans un deuxième cas. Le premier cas, vous m'avez conduit avec Castiglione, c'est lorsqu'on veut travailler pour les traductions sur un mot.
Oui,
là,
on travaille
sur le fait qu'un sens, une signification, est complètement transformée par la traduction. Et là, le troisième exemple que j'avais pris, c'était lorsque ce qui transforme le texte, le sens du texte, c'est pas tellement la traduction, parce que c'est un texte qui ne pose pas un problème particulier de traduction, qui est le texte de Las Casas, qui s'appelle La très brève relation de la destruction des Indes,
oui.
Brevissima relación de la destrucción de las Indias, et qui est, avec Castiglione, sans doute, le texte le plus traduit dans l'Europe moderne, puisque c'est le texte qui alimente l'hostilité à l'Espagne, décrite comme tyrannique, despotique, inquisitoriale. Et du coup, on peut suivre les traductions, mais là, c'est pas tellement intéressant de les suivre dans leur contenu lexical. Mais ce qui est très intéressant, c'est de suivre leurs préliminaires, leurs pages de titres, que Genette appelle les paratextes.
Oui.
Et puisqu'on voit qu'il n'y a jamais deux fois le même titre, et que chaque titre donne une nouvelle situation. Les traductions anglaises, qui est traduction en 1583 d'une traduction française dans le contexte de la guerre des Pays-Bas, lorsque les provinces unies se sont rebellées contre le souverain espagnol. Et donc du coup, les Hollandais et tous les autres provinces unies peuvent devenir les Indiens de l'Europe. Et c'est pour ça que le texte a cette puissance, c'est qu'il peut, chaque fois que l'ennemi est le roi d'Espagne et qu'il y a cette force tyrannique ou militaire ou inquisitoriale, la victime peut se penser à travers la catégorie de Las Casas, c'est-à-dire devenir l'Indien. Et donc c'est le cas très frappant.
C'est un peu comme d'ailleurs chez Montaigne. Hein,
il y a quelque chose, il y a un déplacement.
Proche, ouais.
Oui, puisque Montaigne dans le Des Cannibales,
c'est
de montrer que les Européens peuvent être des Indiens, mais même pire que les Indiens, puisqu'ils mangent les gens crus et non pas cuits, et parce qu'ils commettent des atrocités qui n'existent pas dans le cas des Tupinambas. Ils ne sont pas nommés, mais ce sont eux qui, eux, ne emploient le cannibalisme que dans le contexte de la guerre, c'est-à-dire pour les prisonniers, victimes, et dans une sorte de rituel. Alors que Montaigne décrit des scènes de cannibalisme comme Jean de Léry, qui, dans les guerres de religion, était totalement séparé de ce contexte rituel guerrier. Et alors le texte de Las Casas offre cela, c'est-à-dire d'occuper la place de l'Indien face à la cruauté de l'ennemi espagnol, et donc de mobiliser ceux qui doivent y résister. Et c'est pour ça que le texte a été traduit donc en hollandais, et c'est la langue de la... La moitié des traductions sont des traductions hollandaises, ce qui laisse supposer que dans les provinces unies, le texte de Las Casas en hollandais était presque dans chaque maison. Enfin, c'est un texte d'une circulation immense, traduit en anglais, et réutilisé au début du 19e siècle, ou dans les colonies espagnoles, qui vont se penser comme étant les nouveaux Indiens, et qui vont assumer ce rôle d'indigène face à la métropole. Et on réédite alors Las Casas à Bogota, à Guadalajara, à Mexico, et pour ceux qui soutiennent ce mouvement, à Philadelphie, à Londres et à Paris.
C'est un grand livre sur l'altérité, d'une certaine manière.
Oui, oui, c'est un. Il ne faut pas le pousser trop loin. C'est-à-dire que j'avais suivi aussi. Le texte n'avait jamais été traduit en portugais avant le XXe siècle. Et pour que la traduction portugaise dans sa réédition soit plus vendable, alors je crois que c'est les années 70 ou 80, on a transformé le titre et c'est devenu Le paradis perdu. Comme si c'était poussé, parce que Las Casas ne dit jamais que le monde indien avant la conquête était un paradis. Il dit que la conquête a établi l'enfer. El infierno de las Indias, ça c'est une formule qui est répétée. Mais du coup, comme un grand livre de la traduction brésilienne, le livre de Sergio Buarque sur le paradis, le titre est devenu « O paraíso perdido ».
Le livre a eu...
Un autre contexte, une autre signification, et surtout avec un sous-titre qui est « Les cruautés dans l'Amérique espagnole ». C'est-à-dire qu'on met pas on met le Brésil à part et on reprend l'idée d'espagnol. Ce qui est le seul point peut-être très intéressant à suivre dans la traduction des mots, parce que Las Casas, bien sûr, utilise « espagnoles », mais souvent, il utilise « cristianos ». Un, parce que tous les conquistadors n'étaient pas tous espagnols, mais deuxièmement, parce que ce qu'il veut montrer, c'est que ceux qui se prétendent chrétiens le sont bien peu, puisqu'ils commettent les pires tyrannies et les pires exactions contre les Indiens. Et les traductions, évidemment, ensuite, ont toutes pris espagnol. Et chaque fois où il y avait cristianos dans les textes de Las Casas, on avait les espagnols. C'est comme ça que le texte est devenu un des textes fondamentaux pour la leyenda negra, la légende noire, qui était une grande réalité, en fait, de l'Espagne. Mais c'est un des points où le travailler méticuleusement est tout à fait intéressant de voir que Cristianos a été gommé pour, en quelque sorte, plus politiser le texte. Les ennemis, c'est les Espagnols. Et moins insister sur le fait que c'est des chrétiens qui se prétendent chrétiens, mais qui sont les pires de ces chrétiens, puisque non seulement ils se perdent eux-mêmes par leur cruauté, mais ils empêchent les Indiens d'être sauvés, puisqu'ils n'assument pas la tâche de christianisation pour laquelle, normalement, ils avaient reçu des propriétés, les encomiendas.
Roger Chartier, je rappelle, vous êtes donc historien du livre, de l'édition et de la lecture, mais également de la notion d'auteur, de l'histoire de l'imprimerie, évidemment celle de la traduction, Balthazar Gracian, de la circulation des textes. On va changer d'époque si vous voulez bien. Oui. Aujourd'hui, allons-y. Alors, voilà ce que vous écrivez par exemple. Vous dites que vos recherches voudraient aussi contribuer aux interrogations inspirées par les mutations contemporaines de la culture écrite. La textualité numérique bouscule en effet les catégories et les pratiques qui étaient le socle de l'ordre des discours et des livres dans lesquels furent imaginées, publiées et reçues les œuvres de la première modernité, c'est-à-dire 17e, 18e, 16e, 18e, voilà. Alors, d'après vous, au fond, on pourrait presque dire que la rupture commence déjà un peu au 19e, puisque vous dites première modernité. Donc quand commence la seconde modernité, pour vous? Et puis, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu ce que vous pensez aujourd'hui de l'état de la question, puisque maintenant on a un peu de recul par rapport à tous ces textes qui circulent, tous ces textes numériques. On a un tout petit peu de recul. Qu'est-ce que ça change dans les pratiques effectivement concrètes du livre, de la lecture, etc., mais aussi par exemple dans la notion d'auteur? Roger Chartier.
Oui, c'est une partie du programme que dans ce texte de 2007, en fait, je n'ai jamais développé en tant que tel. Faute de compétences techniques, puisque, comme on l'a vu, il y a une rapidité de transformation à l'intérieur du monde numérique, des supports, des possibilités, des technologies. Faute aussi parfois, je ne suis pas sociologue, donc faute d'enquête menée réellement de manière serrée sur la transformation des pratiques. Donc, beaucoup des discours sur le monde numérique sont soit des discours un peu spéculatifs, soit de projection de sa propre expérience. Donc, j'ai trouvé que c'était un sujet où il était difficile de s'aventurer, mais je ne l'ai pas mis, et je ne le mettrai sans doute jamais au cœur de cours, mais j'ai beaucoup
réfléchi
et je suis intervenu. Alors, je crois que peut-être c'est une formule malheureuse de la première modernité, parce que ça voulait pas dire forcément que la seconde modernité, disons celle du 19e siècle, représentait une rupture aussi radicale que celle du monde numérique. Parce que qu'est-ce qu'est la rupture la plus radicale du monde numérique? C'est que pour la première fois, le support matériel de l'écrit n'est plus attaché à un discours particulier. Un livre, il porte un texte. Vous pouvez vous insinuer dans le texte avec vos annotations marginales, mais le livre comme objet et le livre comme discours sont indissociablement liés. Et c'était le cas du manuscrit médiéval, et c'était le cas des rouleaux de l'Antiquité. Ici, nous avons affaire à des écrans qui ne sont pas liés à un contenu de discours particulier. Ils reçoivent ce que l'utilisateur, lecteur et écrivain, sinon écrivain, mais au moins écrivain, veut bien accueillir ou produire sur cette surface. Et de là découle, à mon avis, toute une série de conséquences de cette rupture qui est inédite. Jamais auparavant, dans aucune des formes de transformation de la culture écrite, invention du codex, invention de l'imprimerie, 19e siècle, massification de la production, on a cette séparation. Ou alors, lorsqu'elle existe, c'est parce que on utilise des supports sur lesquels l'écrit ne doit pas persévérer, doit être effacé. L'ardoise, le tableau noir, ce qu'on avait pu étudier avec mon collègue américain et ami Peter Stalibras, tous ces objets de la première modernité dans lesquels, parce que ce n'est pas du papier normal, mais parce qu'il est avec une petite couche, une pellicule de cire et de vernis, on peut écrire avec un stylet. Oui. Et on peut effacer avec la salive ou avec de l'eau. Mais c'est un domaine très marginal de la des supports de l'écrit.
Bien
les
sûr.
Supports de l'écrit restent. Alors c'est ça la grande nouveauté. Alors après, lorsqu'on veut explorer quelles sont les conséquences de cette réalité, une première, celle que dans les derniers temps m'a le plus obsédé, si j'ose dire, c'est le rapport entre le fragment et la totalité. Personne n'est obligé de lire toutes les pages d'un livre, surtout des miens, mais tout le monde est confronté, le lecteur est forcément confronté à une matérialité du texte. Et s'il prend un fragment, il le sait ou il le sait ou inconsciemment il doit le percevoir où ce fragment est et joue un rôle dans une narration, dans une argumentation, dans une démonstration. Avec l'écran, on l'a vu, et en particulier dans la lecture des plus jeunes, le fragment peut prendre une autonomie. Et c'est-à-dire, il n'y a ni facilité ni nécessité de le rapporter à la totalité textuelle à laquelle il appartient.
Absolument.
Et alors du coup, ça peut donner évidemment des utilisations des textes, certes peut-être inventives, mais qui ne respectent pas, et c'est là que je voulais dire, qui ne respectent pas la logique de la composition de ces textes lorsqu'ils n'ont pas été composés numériquement, et qui sont devenus numériques. Et qu'on peut lire le Quichotte dans une forme numérique, tout pratiquement de plus en plus avec la numérisation des collections et des éditions, progressivement peut-être la totalité du patrimoine écrit. Mais la difficulté, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas les lire sous une forme numérique, ce serait un propos d'une absurdité totale, mais ça veut dire qu'il faut dire, me semble-t-il, qu'il n'y a pas d'équivalence. Et que la lecture que l'on peut faire numériquement, par exemple, peut être une lecture de recherche d'un mot, d'un thème, et qui est rapide, immédiate, possible, mais qui peut aussi renvoyer à cette lecture d'une autonomisation du fragment, qui pourrait être pensée comme une nouvelle forme de la culture écrite. Pourquoi ne pas penser que, je ne sais pas, au 23e siècle, la culture écrite, ce serait des unités séparées, Donc on parlerait même plus de fragment, puisque pour un fragment, il faut qu'il soit fragment de quelque chose.
Bien sûr.
Mais bon, d'unité discrète que les lecteurs pourraient composer, comme des haïkus japonais, recomposer, peut-être, pourquoi pas. Mais lorsqu'on est aujourd'hui devant le fait qu'on a à la fois des textes nés numériquement et des textes numérisés, effectivement, donc pour le deuxième cas, massif, il faut essayer de penser que les deux formes de leur appropriation sont différentes, elles sont radicalement différentes pour la question, parce que il y a dans un cas une indissociabilité entre un livre objet et un livre discours, et dans le deuxième cas, un support qui n'est plus lié à un discours particulier est pour une œuvre une possibilité d'en donner des lectures segmentées, segmentation de la lecture comme temps de lecture et fragmentation du texte comme objet lu, et qui donc là peut entraîner, ou devrait entraîner, une prise de conscience quant à la permanence des différentes formes de la culture écrite. Nous écrivons encore à la main, vous et moi, ce matin, on a une masse de lectures qui sont les lectures de l'imprimé, et puis il y a les usages multiples de l'écrit numérique, qui d'ailleurs est une part du numérique, puisque non seulement il y a de l'écrit, mais il y a du son et il y a de l'image, et peut-être le plus fondamental, c'est que la numérisation, elle n'est pas simplement des textes, elle est des rapports humains. Milad Douéhi, dans des livres intéressants, a réfléchi sur qu'est-ce qui transforme le concept d'amitié, le concept d'intimité, la catégorie d'identité, lorsqu'elles deviennent numériques.
Et puis l'auteur disparaît, Roger Chartier.
Alors l'auteur disparaît dans le cas où on aurait affaire à une production numérique qui serait, peut-être selon la logique même de la technique, ouverte, malléable,
mobile. Vous êtes en train de dire que c'est une des possibilités quand même.
Ah, c'est une des possibilités. Mmh. Mais contre laquelle résistent ceux qui sont peut-être partagés ou mon discours l'appliquent, c'est-à-dire les éditeurs de textes numériques qui les ferment. Mmh. En anglais, on dit « securities ». Mais ça veut dire qu'on ne peut pas ni le copier, ni le transmettre, ni le faire circuler. Et donc, c'est la volonté de maintenir dans une technologie qui est ouverte, ou une technique qui est ouverte à cette malléabilité, mobilité, quelque chose qui est lié avec la définition classique de la propriété littéraire, on va dire de la propriété intellectuelle, qui est propriété de qui publie, et qui préalablement, et ou en même temps, est propriété de qui écrit. Et on voit d'ailleurs que les écrivains sont assez embarrassés. Les plus audacieux pour utiliser les formes numériques modernes, généralement, continuent à publier dans une forme imprimée, et ils utilisent le monde numérique pour ce qui est l'entour de l'œuvre. Brouillon, texte autobiographique, dialogue avec les lecteurs. Mais un auteur qui utiliserait totalement la possibilité numérique serait évidemment s'effaçant lui-même. Mais il y a une grande vitesse de transformation, et donc ces pratiques-là, elles sont difficiles à saisir, mais c'est évidemment là, dans ces pratiques, que se joue le défi ou la question qu'on est en train de discuter. Et donc il faut avoir confiance dans la force des paroles, et particulièrement lorsqu'elles peuvent amener des actes, des politiques, et qui font, c'est pas tout équivalent, qu'il y a des protections. En même temps, il faut être très, très conscient que les pratiques ne sont pas les effets directs des discours.
Roger Chartier, merci beaucoup pour ce moment passé avec nous et avec les auditeurs de France Culture et de l'Éloge du Savoir. Merci pour cet appel à la vigilance aussi.
Tout à fait. Merci beaucoup à vous.
Et bonne journée.
À vous aussi. Merci.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Roger Chartier, titulaire de la chaire écrit et culture dans l'Europe moderne. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous la semaine prochaine avec le cours d'Henri Laurence, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe. Belle journée à tous. À l'écoute de France Culture.